France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous avions transformé notre garage en atelier d'artiste. Tout ce dont j'avais besoin pour gagner ma vie se trouvait dans cet espace de travail. Et maintenant, tout a disparu. C'est un terrain vague aujourd'hui.
Le projet Cheminée a été lancé par nécessité, car les pertes architecturales étaient considérables. Quelqu'un devait intervenir pour essayer de préserver les vestiges qui avaient survécu.
Nous prévoyons d'enregistrer un album de musique sur l'incendie, avec tous les musiciens d'Altanena. Nous nous réunissons, chaque groupe va apporter une chanson et nous allons l'enregistrer.
La Californie fait face chaque année à des incendies destructeurs. Mais ceux qui ont frappé la zone très densément peuplée de Los Angeles en janvier dernier ont fait des dégâts sans précédent. Attisés par un vent chaud et sec d'une rare intensité, les feux se sont propagés très rapidement, sur plus de 150 km². Et les pompiers les ont combattus sans relâche plusieurs semaines durant. Le bilan officiel est de 31 morts, mais en comptant les victimes indirectes, la catastrophe a sans doute provoqué autour de 440 morts, selon des démographes. À l'ouest, les flammes ont notamment détruit une grande partie du quartier huppé de Pacific Palisades, où résidaient de nombreuses célébrités d'Hollywood. Steven Spielberg, Anthony Hopkins, Tom Hanks ont ainsi perdu leur luxueuse villa. De splendides maisons d'architectes ont disparu, de même que de précieuses œuvres d'art. La collection privée de Ron Riveling, qui comprenait des œuvres d'Andy Warhol et de Keith Haring, est réduite à néant. À l'est, la ville d'Altadena, 44 000 habitants, ville bohème très appréciée des artistes, a été presque entièrement détruite. Galeries, studios et ateliers sont en ruine. Mais à Los Angeles, pas de fatalisme. Élan de solidarité, créativité et optimisme poussent à se relever et se projeter dans l'avenir. À Los Angeles, la culture résiste au feu. C'est un reportage signé Valérie Cantier. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous vous êtes rendue à Los Angeles à la mi-juillet, à Pacific Palisades et à Altadena. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé à votre arrivée ?
Je dirais que c'est le bruit, ou plutôt le non-bruit, le silence finalement. C'est-à-dire que sur ces deux zones-là, qui sont normalement des zones évidemment très habitées, mais donc du coup très bruyantes aussi, eh bien là on n'entend plus que deux sons, les oiseaux, d'une part, et d'autre part les pelleteuses et tous les engins de travaux, puisqu'on est encore, et là on parle donc de mi-juillet comme vous l'avez dit, et encore aujourd'hui on peut encore parler de ça, on peut même pas parler de reconstruction là pour l'instant. On nettoie, on déblaye et on construira, mais plus tard. Et c'est ça vraiment qui est très étonnant, surtout quand on connaît cette ville et quand on est déjà allé dans ces quartiers de Pacific Palisades et d'Altadena auparavant.
Alors l'invitée de Grand Reportage est aujourd'hui l'historienne des États-Unis Elsa De Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Northumbria en Grande-Bretagne et vous avez écrit « La ruée vers le sable, une histoire environnementale des plages de Los Angeles au XXe siècle », un livre paru aux éditions de la Sorbonne. On vous retrouve juste après le reportage de Valérie qui nous emmène dans un premier temps à Altadena.
Nous sommes sur les hauteurs d'Altadena, au pied des montagnes Saint-Gabriel, là où le feu est parti. Et nous allons à la rencontre de Justin Smith, qui est musicien et qui a perdu sa maison, tous ses instruments dans l'incendie. Ici, c'est une zone de désolation. Les bruits, les seuls bruits que l'on entend, ce sont ceux des travaux de partout. Des pelleteuses qui enlèvent les décombres et des ouvriers qui s'affairent à nettoyer les terrains. Nous sommes plus de 6 mois après l'incendie et bien sûr rien encore n'a été reconstruit.
Justin ?
Hi.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
This is my lot.
Voici mon terrain.
Our home had been just completely burnt.
Notre maison était complètement détruite par le feu. Il ne restait plus que la cheminée et c'est là où nous sommes maintenant. Tout Altadena, notre quartier en particulier, est, excusez-moi l'expression, comme si quelqu'un avait largué une bombe dessus. Il n'y a plus rien ici.
Est-ce que vous aviez du matériel, des instruments chez vous ?
Je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait cru que cela allait prendre une telle ampleur. Nous avons donc fait nos valises, de petites valises, de très petites valises. mais je n'ai pas emporté mes batteries. J'avais quatre superbes batteries vintage que j'utilisais pour les tournées, pour jouer en ville, ainsi que toutes sortes de cymbales, d'équipements et tout le reste, et je n'ai rien pris. Je n'ai donc sauvé aucun de mes équipements musicaux, pas un seul. Tous ont été détruits. Nous étions propriétaires de notre maison, mais beaucoup de nos amis étaient locataires. Et je pense qu'en tant que propriétaire, nous avions l'avantage d'avoir une assurance habitation. Il y a donc une assurance qui nous aide pour tout. En gros, ça va nous aider à reconstruire la maison. Mais il y a beaucoup de musiciens locataires et beaucoup de gens bien à Altadena qui ont vraiment souffert parce que leur logement a brûlé ou a été envahi par la fumée, ce qui rendait les conditions de vie insalubres. Et les propriétaires ont réagi de manière très différente pour remédier à la situation, certains mieux que d'autres, vous voyez. Il y a donc un réel défi pour les locataires Altadena en ce moment.
Où est-ce que vous habitez maintenant?
Bien, le premier endroit où nous avons atterri, c'était chez un bon ami à moi, un collègue musicien. Son père nous a laissé l'un de ses logements vacants et nous y avons vécu pendant environ 3 à 4 mois. Mais nous avons vu des logements se libérer à Altadena. Il s'avère qu'un ami d'un ami était propriétaire de cette maison et nous avons pu la louer. Et nous sommes donc de retour à Altadena dans une maison. Nous avons finalement eu beaucoup plus de chance que beaucoup d'autres personnes à cet égard. Beaucoup de gens ont encore des difficultés à se loger. Et comme le marché locatif en Californie est très difficile, parce que tout est très cher, qu'il y a beaucoup de monde et qu'il n'y a pas assez de logements à louer, nous nous considérons chanceux. Mais nous voulions aussi pouvoir revenir et fréquenter les magasins et les restaurants qui essaient de rouvrir et de survivre ici. Il était donc très important pour nous d'essayer de les soutenir afin que, d'ici à ce que tout soit reconstruit dans quelques années ou quel que soit le temps que cela prendra, nous puissions redonner à l'économie et essayer de les aider, vous savez, à tenir bon, à traverser cette épreuve.
Est-ce que vous pensez que la vie artistique, musicale d'Altadena va revenir et va revivre un jour?
Certaines choses vont certainement changer, mais bizarrement, le fait que tout ait été détruit nous donne, je pense, l'occasion de vraiment renaître. Il y a beaucoup de grands musiciens qui revivent à Altadena. Vous savez, des gens vraiment fantastiques, bien au-dessus de mon niveau, qui ont fait de cet endroit leur maison. Et d'après ce que je sais, ils reviennent. Je pense qu'il y a une excellente occasion pour la musique de se reconstruire et de devenir encore plus forte qu'avant. Donc, oui, je crois vraiment qu'elle va revenir.
Est-ce que vous avez plus d'offres de concerts depuis le feu?
Oui, absolument. Je viens de rentrer de Californie du Nord avec le Joe Bordet Band. Je pars au Royaume-Uni avec les Seeds. La musique ne s'arrête jamais.
Je m'appelle Jocelyn Soubiran, avec mon frère Jeff et un ami Guillaume, on a un endroit à LA qui s'appelle Zébulon.
C'est une salle de concert?
Oui, une salle de concert comme ce soir d'ailleurs. Là, Zébulon c'était un lieu de partage, donc ouais, voilà, on reçoit des gens, des musiciens tous les soirs.
Alors toi, tu as perdu ta maison à Altadena?
Oui, là où on habitait, tout a brûlé, il n'y a plus rien quoi.
Alors Altadena, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est? C'est une communauté? C'est quoi? Comment tu vois ça, toi?
Altadena, déjà, c'était beau, c'était très beau, très très fort. La nature est magnifique, des arbres incroyables, avec des branches, on dirait des poutres. Enfin, c'est vraiment quelque chose, cette nature là-haut. Les animaux, des pans qui se baladent, c'est incroyable. Donc vraiment très 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 fort. Des coyotes, ah ouais, bien sûr, Altadena, c'est vraiment sublime. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait des gens... Canon qui était là-bas, à l'écart de la folie de Los Angeles.
C'est quand même un lieu qui était visiblement très artistique.
Bien sûr, hein. De toute façon, ça attire toujours des gens qui ont envie, n'ont pas envie du bois. C'est mystique. Donc on peut imaginer que Adolf Huxley, Crowley, tous ces gars-là qui ont été pas loin, tout ça, ils sont allés là-bas. Enfin bref, c'est mystique.
Tu crains que finalement ça se vide maintenant, c'est-à-dire que les gens ne reviennent plus?
C'est sûr, ça a changé forcément. Il va y avoir de l'argent qui va arriver, on connaît l'histoire de cette machine. Bien sûr, c'est déjà, il y a plein d'écriteaux, tu l'as vu, à vendre. Il y a des gens qui ont abandonné déjà, qui ont dit « Ok, c'est trop. C'est trop pour moi, ça va coûter trop cher. En plus, ça va mettre des années et tout ça. » Non, il va arriver, à mon avis, des complexes avec la piscine au milieu, un tennis.
Et c'est aussi un lieu où il y avait une communauté afro-américaine assez importante.
Oui, très forte. C'était une des premières terres aux États-Unis où ils pouvaient acheter. Alors, ils sont devenus propriétaires fin du siècle dernier, enfin, je veux dire, du 19e, début 20e. Mais en tous les cas, c'est vrai que la communauté afro-américaine est super présente à Altadena.
Personnellement, toi, tu vis ailleurs, comment ça se passe?
Oui, je vis chez un ami qui m'a gracieusement prêté une chambre.
Tu campes un peu?
Oui, un petit peu, ouais, c'est vraiment ça. C'est une valise. Mais c'est bon, voilà, c'est ce que je pense vivent des milliers de gens, en fait, depuis les feux.
À 80 ans, Onoche Tukura est une figure d'Altadena. Il est arrivé lors d'une tournée en 1969 avec Fela Kuti, le père de l'afrobeat. Il a découvert la Californie et il n'est jamais reparti au Nigeria. Il a fondé sa famille ici et a créé à Altadena un véritable repère pour tous les passionnés de musique, Rhythms of the Village, les rythmes du village.
Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est rythme du village?
It was a shop, but it became a community center.
C'était un magasin, mais c'est devenu un centre communautaire où les gens viennent suivre des cours d'histoire africaine, de langue africaine, de musique africaine, d'art africain. Nous avons également organisé des festivals. Nous avions un grand parking où nous invitions les membres de la communauté. Peu importe où vous êtes né ou la couleur de votre peau, nous sommes un seul peuple. Alors nous les invitions et quand ils venaient, nous jouions de la musique, nous dansions. Il y avait des ateliers sur différentes cultures. Nous proposions des plats issus de différentes cultures. C'est devenu un événement important à Altadena. Nous l'avons géré pendant 13 ans. Nous vendions des tambours, nous présentions des kalimbas, des pianos à pied. Nous vendions toutes sortes d'instruments, flûtes, maracas. Nous proposions même des cours pour apprendre à fabriquer des maracas, comme celui-ci.
Ah, does it make noise?
Yes.
Do it?
Le magasin a brûlé. Nous avons tout perdu. Tout est parti en cendres.
But we're looking for another.
Mais nous cherchons un autre local. Je ne veux pas quitter Altadena.
Donc vous voulez rouvrir un magasin. Pourquoi vous ne voulez pas quitter Altadena?
Because Altadena has been good to us.
Parce que, vous savez, Altadena a été bonne pour nous. Et j'ai découvert que les gens aimaient vraiment ce que nous faisions là-bas. Parce que c'était le seul magasin de ce genre dans toute la vallée. Et les gens venaient là pour écouter de la musique, juste pour se détendre. C'est une entreprise familiale. J'ai appelé mon fils, je lui ai dit que le magasin avait disparu et je pleurais. Puis je me suis calmé et j'ai dit, peu importe, vous voyez, parce que quand on vient au monde, on n'apporte rien. Et quand on le quitte, on n'emporte rien. Je ne vais donc pas rester triste trop longtemps, je vais rester positif. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est que nous prévoyons d'enregistrer un album de musique sur l'incendie, avec tous les musiciens d'Altadena. Donc, nous nous réunissons, chaque groupe va apporter une chanson et nous allons l'enregistrer.
Est-ce que vous avez eu de l'aide pour racheter votre matériel, vos instruments?
Oui,
oui.
L'aide que j'ai reçue, vous voyez mes instruments ici, ce sont des dons qu'on nous a faits. Le magasin de musique nous a donné des batteries, des guitares, des amplis, des micros. Ils nous ont donné tout ce que nous avons perdu dans cet incendie en rapport avec notre musique. Le soutien que j'ai reçu, c'est quand ils ont organisé les Grammy Awards. Les gens des Grammy sont venus chez moi et nous avons réuni notre groupe. Ils nous ont filmés. Nous fabriquons des sweatshirts, des t-shirts, des casquettes et des sacs fourre-tout signés Altadena. Ils sont donc venus ici, ils nous ont filmés et ils ont réalisé un clip diffusé pendant les Grammy Awards.
Hey. Mind if I get one of those sweatshirts?
You sure can.
Go to rhythmsofthevillage.com to support this small business by buying their cool Altadena sweatshirt, hats, or supporting them at their live events.
At the end of that night, we had like
à la fin de la soirée, nous avions reçu énormément de commandes pour ces t-shirts provenant du monde entier. Cela nous a donc beaucoup aidé. Plus de 4000 commandes pour ce t-shirt-là. Nous avons donc maintenant assez d'argent pour démarrer une nouvelle activité dans un nouvel endroit à Altadena.
Est-ce que vous savez à peu près quand vous pourrez rouvrir un magasin?
Si je trouve un bâtiment aujourd'hui, je commence aujourd'hui.
Hello, my name is Casey Mancibo.
Bonjour, je m'appelle Casey Mancibo. J'ai créé une organisation avec un très bon ami à moi. Cette organisation s'appelle Altadena Musicians et nous avons récemment lancé une application appelée Instrumental Giving, disponible dans l'App Store dans le monde entier. Nous avons commencé à collecter des instruments pour les musiciens afin qu'ils puissent reprendre leur travail et continuer à créer après avoir perdu leur maison dans les incendies.
Est-ce qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont perdu leur maison et leurs instruments?
It's really quite fascinating and very sad because
c'est vraiment hallucinant et triste. Un grand nombre d'artistes, de musiciens et de groupes ont perdu leur maison et leur studio lors des incendies d'Altadena et de Pacific Palisade. Des milliers. Et nous les aidons autant que possible. Nous avons aidé près d'un millier de musiciens. Nous avons distribué environ 1500 instruments et les gens reçoivent plusieurs articles. Le nombre ne cesse d'augmenter, ce qui nous permet de nous assurer que notre communauté créative continue à travailler. Je suis très optimiste. Les gens retourneront sur leur terre et les reconstruiront. Mais c'est une période très difficile et pleine de défis en raison de tout ce qui se passe au niveau mondial avec la chaîne d'approvisionnement et les droits de douane et aussi avec la main-d'œuvre. Qui va reconstruire les maisons?
Il y a par exemple eu des descentes de la police de l'immigration à Altadena alors que les ouvriers, donc la plupart du temps sud-américains, travaillaient.
C'est vrai, et nous en avons vu partout à Los Angeles. Si les expulsions continuent, nous n'aurons pas la main-d'œuvre nécessaire pour reconstruire. Et cela m'inquiète beaucoup pour la communauté créative et pour toutes les personnes qui sont victimes de cet incendie en général.
Nous devons parcourir environ 100 km d'autoroute pour partir à la rencontre de Victoria Morris. Elle est céramiste. Son atelier était en plein centre-ville d'Altadena. Aujourd'hui, ce n'est qu'un tas de pierres. Victoria a choisi de partir, loin de ce théâtre de désolation. Elle travaille désormais dans un immense hangar.
Nous avons d'abord appris que l'atelier avait été détruit par les flammes et ma maison a également brûlé.
Qu'est-ce que vous avez perdu dans votre atelier ?
Literally everything in the studio.
Littéralement tout ce qui s'y trouvait. Une montagne de colis prêts à être envoyés à des clients, donc tout. Depuis les œuvres toutes nouvelles qui venaient d'être moulées dans l'argile fraîche le matin même, jusqu'aux œuvres finies en attente d'être expédiées par FedEx. Tout a brûlé, ainsi que mes fours, mes tours de potier, tout mon équipement, mes ordinateurs, tout. Nous n'avons rien pu sauver de l'atelier.
Est-ce qu'il y a eu une cagnotte sur le site GoFundMe, par exemple, pour vous?
Oui, c'est un peu gênant parce que c'est énorme. Nous avons reçu plus de 100 000 dollars. Je suis encore sous le choc de la générosité dont ont fait preuve ma communauté, mes amis, des inconnus pour nous soutenir. C'était bouleversant. Je ne voulais pas lancer une campagne GoFundMe. Deux de mes amis proches l'ont lancé pour moi. Cela nous a vraiment aidés et nous avons également reçu des subventions. Heureusement, grâce à la collecte GoFundMe et à ces subventions, j'ai pu réinstaller mon atelier ici, à Ventura, ce que je n'aurais pas pu faire sans cela.
Vous avez décidé de déménager très loin de Los Angeles et très loin de votre ancien studio d'Altadena. Vous avez donc décidé de ne plus retourner à Altadena pour vivre ou pour habiter.
For now, yes, because there's nothing to go back to.
Pour l'instant, oui, parce qu'il n'y a plus rien qui me retient là-bas. Mais sur le long terme, je ne sais pas. La reconstruction a été longue et lente. Il m'a fallu 3 à 4 mois rien que pour obtenir des fours. La plus grande différence, je pense, c'est que la communauté des petites entreprises d'Altadena était très soudée. Chaque jour, on se disait « bonjour Jim, bonjour Ben » à tous ceux qui passaient par là. C'était beaucoup plus social et il y avait des piétons. Ici, à Ventura, je suis dans une rue calme, dans un quartier industriel, et même si mon atelier est plus grand, je me sens seule. Personne ne vient, il n'y a pas d'autres entrepreneurs aux alentours à qui parler. Émotionnellement, cela a été un énorme changement et une grande difficulté. Je me trouve dans une situation étrange où je suis obligée d'aller de l'avant pour gagner ma vie, ce qui nécessite de développer cet atelier, de m'implanter ici, dans cette communauté. Et chaque fois que je retourne à Altadena, j'ai le sentiment profond que c'est chez moi. J'ai l'impression de les avoir abandonnés. Mais je suis partagée quant à la possibilité d'y retourner, quant à savoir si je peux revenir. Et cela demanderait beaucoup d'efforts. Et vous savez, j'ai 50 ans, ce qui n'est ni vieux ni jeune quand même. Comment voulez-vous passer les 5 prochaines années? Voulez-vous vous battre pour reconstruire et créer peut-être une nouvelle communauté? Ou voulez-vous partir et vous enraciner dans un nouvel endroit? Je ne sais vraiment pas.
Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load.
Los Angeles, c'est bien sûr Hollywood, et Hollywood, c'est bien sûr le cinéma. Ils étaient des centaines de professionnels du secteur à vivre à Altadena ou à Pacific Palisades. Ils sont donc des centaines à avoir tout perdu. Nous nous installons avec Toby Bass, au milieu d'un entrepôt de Los Angeles. Il est l'un des porte-parole du principal syndicat des professionnels du cinéma et de la télé, l'Alliance internationale des employés de la scène, c'est-à-dire ceux qui travaillent derrière les caméras.
Tous nos métiers ont été touchés par les incendies, tous ceux qui sont au générique d'un film. Beaucoup d'accessoiristes, de décorateurs et de coordinateurs dans ces zones. À Pacific Palisades également, beaucoup de directeurs artistiques et de chefs décorateurs ont été concernés. Machinistes, électriciens, techniciens, chauffeurs, nous avons tous été frappés dans tous ces domaines. Nous sommes là, dans un hangar qu'on utilise habituellement pour la formation. C'était devenu un centre de collecte des dons pour tous nos membres touchés par les incendies. Et tous nos adhérents qui n'avaient pas été concernés ont fait des dons et ont transformé cet endroit en un centre d'approvisionnement. Tout ce dont on peut avoir besoin à court et à long terme. Et puis, un autre local tout près, celui des costumiers, est devenu un centre de collecte de vêtements. Nous avons donc reçu des vêtements provenant d'émissions de télévision et de films. Les studios ont fait don de matériel provenant de films terminés et ils ont mis en place un centre de collecte qui a reçu des milliers et des milliers de vêtements. Les studios ont également commencé à faire don de meubles provenant des décors de films et des assiettes, des couverts, des tapis, de tout. C'était un moment fédérateur.
À Altadena, il y a pas mal de lieux qui servaient aussi de lieux de tournage pour la télé, pour des publicités ou pour des films.
Oui, Altadena avait un aspect très particulier et vous pouviez y tourner des films ou des séries télévisées, probablement des années 1900 à nos jours, et trouver l'architecture nécessaire. En raison de son histoire, cette ville était partout. Je me souviens avoir travaillé sur un film qui se déroulait à la fin des années 60 et nous avons pu utiliser plusieurs maisons et rues qui correspondaient correspondait toutes à cette période. Et perdre cela, ne serait-ce que du point de vue des tournages en extérieur, aura un impact considérable. Tout s'est enchaîné très rapidement. Nous attendions tous avec impatience 2025, qui devait être l'année du redressement. Et nous avons commencé par ces incendies dévastateurs. Avant cela, nous avions eu les grèves, la bulle du streaming a éclaté, et donc moins de productions ont vu le jour. Les deux dernières années ont été extrêmement difficiles pour nos membres. Des adhérents que je connais depuis le début de ma carrière n'ont pas travaillé depuis près de 2 ans maintenant. Vous pouvez donc imaginer, ils commencent à perdre leur couverture santé, leurs économies sont épuisées. Nous commençons tout juste à voir une légère amélioration, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour revenir à la situation antérieure.
Nous sommes à la Getty Villa, un des musées les plus célèbres de Los Angeles, en haut d'une colline et qui domine l'océan Pacifique dans le quartier de Pacific Palisades. Le 7 janvier 2025, la Getty Villa a été entièrement entourée par les flammes en très peu de temps. Et malgré tout, non seulement il n'y a pas eu de blessés, mais en plus de ça, les bâtiments sont restés en état et il n'a pas fallu évacuer les collections d'art antique, grec et romain, qui se trouve ici. La Getty Villa a mis 6 mois pour rouvrir ses portes au public.
Hi.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Alors là, nous sommes avec Claes Borset, qui est en charge de la sécurité de la Getty Villa. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé à la Getty Villa en janvier ?
Nous savions que le risque incendie était très important. Nous avons appris qu'il y avait un incendie à environ 5 à 6 kilomètres d'ici. Dès qu'il y a un feu quelque part, nous avons beaucoup de procédures que nous suivons automatiquement, même en supposant que l'incendie sera éteint avant même qu'il ne nous touche. Nous devons prendre des mesures au cas où. C'était un incendie qui se propageait très rapidement. Et l'endroit où nous nous trouvons était complètement encerclé. Nous avons tout de même eu un peu de chance ce jour-là, car nous étions fermés. Nous sommes fermés tous les mardis à la Getty Villa. Il y avait des entrepreneurs et du personnel sur place. Nous les avons renvoyés chez eux assez tôt et nous sommes restés à 17. Les agents de sécurité étaient principalement à l'extérieur, essayant de faire ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire essentiellement utiliser un extincteur. Ils n'ont pas de tuyaux, nous n'avons pas d'équipement anti-incendie.
C'est très étonnant que la villa n'ait pas été tout simplement brûlée.
J'aime à croire que la Getty Villa, et je parle spécifiquement de la partie musée que M. Getty a fait construire dans les années 70, est un endroit sûr. Ses murs en béton et en acier font environ 60 cm d'épaisseur. Vous voyez que le toit en tuiles n'est pas du tout inflammable. Il n'y a vraiment aucun endroit où les braises peuvent pénétrer à l'intérieur. Il y a un nombre limité de fenêtres. Elles sont à double vitrage avec du verre très épais. Il est donc très difficile pour une température élevée de traverser ces fenêtres et de permettre aux braises de pénétrer directement dans le bâtiment. Mais certains des autres bâtiments que nous avons sur notre site, y compris celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, ont été construits dans les années 20 et ne sont pas aussi costauds. Il s'agit tout de même d'un bâtiment solide. Au fil des ans, des mesures ont été mises en place pour s'assurer que le toit est en bon état, avec des tuiles solides, que les fenêtres sont en bon état et que l'herbe est coupée. Mais nous avons eu vraiment beaucoup de chance que ces bâtiments n'aient pas brûlé. Il n'y a pas vraiment de pièces de musée dans ce bâtiment, mais il y a beaucoup de livres, comme vous l'avez vu. Ce sont les bureaux de notre équipe de conservateurs et de chercheurs. Et donc, toutes ces recherches se trouvent ici, ce qui se trouve dans ce bâtiment est donc très très important, au-delà du fait qu'il s'agissait de la maison de M. Getty.
Est-ce que vous avez été obligé de déménager des œuvres d'art ?
No, and I think that this is such an important topic. It's dangerous.
Non, et je pense que c'est un sujet très important. C'est dangereux et difficile de déplacer des œuvres d'art. Il est presque impossible de saisir rapidement une œuvre d'art en raison de la façon dont elles sont disposées dans les galeries. Comme nous avons des tremblements de terre ici, elles ne sont pas simplement posées là, au sol. Elles sont fixées, ce qui rend leur déplacement difficile. De plus, les antiquités sont particulièrement lourdes. L'idée était donc de s'assurer qu'elles soient en sécurité à leur place. Nous coupons l'air extérieur dès qu'un incendie se déclare dans la région afin qu'aucune particule ne pénètre dans les galeries, car nous savons que ces particules peuvent se mélanger à la fumée et se déposer sur les peintures, les sculptures, les objets décoratifs ou n'importe quelle autre œuvre. Nous avons ensuite fait le tour des lieux avec du ruban adhésif bleu et scellé les portes.
Est-ce que vous ne pensez pas, en tant que spécialiste de la sécurité, que la Getty Villa devrait déménager dans un endroit plus sûr?
Mr. Getty loved this area. He lived
Monsieur
here.
Getty aimait cette région. Il vivait ici. Il était à l'époque l'homme le plus riche du monde. Il aurait pu installer ce musée n'importe où. Il a choisi de le faire ici. Mon travail consiste à le maintenir ici, dans cet endroit magnifique et extraordinaire.
La Getty Villa ressemble aujourd'hui à une forteresse au milieu d'un désert de terre, de décombres et d'arbres calcinés. Et même si elle a été épargnée par les flammes, elle est restée fermée pendant 6 mois.
Je m'appelle Jens Stener, je suis conservateur principal des antiquités au Getty Museum. Eh bien, les 6 mois qu'il nous a fallu pour rouvrir ont comporté de nombreuses phases de réhabilitation. Tout d'abord, au début, un incendie de cette ampleur continue de brûler. Même s'il ne s'étend pas davantage, ça ne signifie pas qu'il est terminé. Et puis notre site se trouve au milieu d'une zone sinistrée et extrêmement détruite, ce qui entraîne une forte contamination. Il faut nettoyer les jardins et effectuer des tests pour détecter les toxines et toute forme de contamination. Des échantillons de sol sont analysés. Il y a donc beaucoup de processus à suivre. Et ils devaient tous être en règle avant même de pouvoir envisager de faire revenir le personnel. Cela a pris beaucoup de temps, y compris pour que les employés réguliers reviennent au bureau. Il a fallu beaucoup nettoyer. Il ne s'agit pas seulement du sol et des plantes, mais aussi des bâtiments. Presque toutes les surfaces extérieures du bâtiment ont été nettoyées à fond. Et nous avons des fresques dans le péristyle extérieur, dans le style des peintures murales romaines, qui ont dû être méticuleusement nettoyées, ainsi que d'autres autour du site. Il y a de très nombreux endroits qui devaient être remis en état et nettoyés avant que nous puissions laisser le public revenir.
Alors là, il y a une exposition qui vient de démarrer à la Getty Villa, en même temps que la réouverture de la villa et qui s'appelle Le Royaume de Pylos. En quoi c'était important d'ouvrir avec cette exposition ?
Well, for us, it was important to reopen the villa to the public no matter what.
Eh bien, pour nous, il était important de rouvrir la villa au public, quoi qu'il arrive. Mais par chance, nous avions planifié depuis de nombreuses années cette exposition spéciale en collaboration avec nos collègues grecs afin d'amener ces objets du site de Pylos à Mycène aux États-Unis et dans notre musée. Et cela a heureusement coïncidé avec le moment où nous devions rouvrir le site. De plus, l'exposition était prête. Il a fallu installer. Nous avons dû travailler dans des conditions difficiles, car avant l'inauguration de l'exposition, il y a eu des semaines et des mois de travail, et cela s'est fait dans des conditions difficiles, le site étant fermé et toute la zone étant encore contrôlée par checkpoints, etc. Et non seulement nous avons pu rouvrir le site, mais nous avions aussi quelque chose de spécial à offrir. Il s'agit de cette exposition sur l'art mycénien. C'est la première exposition de ce type aux États-Unis.
And the first was that focus in the United States.
On se promène à Pacific Palisades, au-dessus de la plage de Malibu et de l'océan Pacifique. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Tout d'abord, on est frappé par le silence et par le seul bruit des travaux de déblaiement, comme à Altadena. Et dans ce désert d'herbes sèches, d'arbres brûlés et de décombres, seules les cheminées sont encore debout. Les maisons de Pacific Palisades étaient en fait pour la plupart de grandes demeures en bois souvent créés par de célèbres architectes. Alors, un jeune artiste de Los Angeles a créé le projet des cheminées pour les immortaliser.
So, this is the chimney stack of the Richard Neutra chimney, which was.
Voici donc la cheminée de la maison Richard Neutra, conçue et construite en 1953. Cette cheminée a été divisée en trois parties, la partie supérieure, la partie centrale et la partie inférieure qui a été récupérée pièce par pièce, brique par brique. Je m'appelle Evan Hall, Evan Curtis Charles Hall, et je suis le fondateur de House Museum, une organisation à but non lucratif qui œuvre à la réhabilitation de monuments historiques à travers des méthodes d'art conceptuelles. Le projet cheminée a été lancé par nécessité, car les pertes architecturales étaient considérables. Quelqu'un devait intervenir pour essayer de préserver les vestiges qui avaient survécu. Nous avons donc commencé par recenser plus de 55 structures historiques importantes des maisons qui avaient brûlé. À partir de cette liste, nous en avons sélectionné 7 qui nous semblaient pouvoir être sauvées, mais aussi des cheminées qui représentaient un éventail de conceptions et de développements architecturaux à Los Angeles au cours des 150 dernières années. À Pacific Palisades, on trouve de nombreux styles différents, du néocolonial espagnol au néo-Tudor, en passant par le néo-normand, le moderne du milieu du siècle, et bien sûr, le moderne de Los Angeles. Ça, c'est la cheminée conçue par Richard Neutra qui a brûlé. Trois des maisons de Richard Neutra ont donc disparu dans l'incendie de Pacific Palisades. Mais au total, il a conçu plus de 300 bâtiments à Los Angeles. Cependant, en ce qui concerne Pacific Palisades, il ne reste plus rien de Richard Neutra. Son architecture est moderne du milieu du siècle. Il utilise de grandes baies vitrées et utilise l'environnement naturel pour créer un cadre de vie intime. À Palisades, la maison Kessler offrait une vue magnifique sur l'océan Pacifique, avec une cheminée située juste à côté de ces grandes baies vitrées, des fenêtres extérieures donnant à la fois sur le patio, mais aussi sur les collines de Palisades, puis sur la baie de Santa Monica.
Qu'est-ce que vous allez faire ensuite, maintenant que les cheminées ont été préservées ?
Nous allons publier un catalogue numérique des différentes cheminées qui ont été identifiées, les 55, qui prendront probablement la forme d'un livre à une date ultérieure. Nous publierons également du matériel, du contenu et des vidéos liées au processus de sauvetage des cheminées, qui feront l'objet probablement d'un court-métrage. Et le Palisades Fire Memorial, où les 7 cheminées seront accessibles au public.
Les incendies sont devenus source d'inspiration pour les artistes. Marcus Hubenguin est photographe professionnel. Il vivait à Altadena avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont partis en catastrophe le soir de l'incendie. Et comme tous ceux qui ont tout perdu, Marcus revient une fois par semaine sur son terrain pour arroser le peu de verdure qui a survécu. Quelques roses sont même réapparues depuis le feu. Marcus s'est lancé dans un projet, photographier les lieux et les habitants d'Altadena depuis l'incendie.
We're standing in what used to be our house. It's an empty lot now.
Nous nous trouvons ici sur ce qui était autrefois notre maison. C'est un terrain vague aujourd'hui. Nous avions transformé notre garage en atelier d'artiste. Tout ce dont j'avais besoin pour gagner ma vie se trouvait dans cet espace de travail. Et maintenant, tout a disparu.
I'm slowly trying to rebuild my kit, but it really broke my practice and my.
J'essaie petit à petit de reconstituer mon équipement, mais cela a vraiment perturbé mon travail et ma vie, car j'avais l'impression qu'une grande partie de moi-même et de mon identité se trouvait dans ce garage. C'est une dizaine d'années de travail. Même les photos de ma femme lorsqu'elle était enceinte, tous ces souvenirs ont disparu. Donc ils doivent désormais vivre sous forme d'histoire, vous voyez. Ce ne sont plus des objets tangibles que l'on peut tenir entre ses mains. Et c'est encore difficile d'en parler, car je ne l'ai pas encore complètement assimilé. Je n'ai pas encore pris pleinement conscience de ce qui m'est arrivé. Tout ce que je peux faire, c'est avancer jour après jour. Je dois pratiquement recommencer à zéro, et cela prend beaucoup de temps, car bon nombre de ces objectifs ne sont plus fabriqués. Certains d'entre eux sont vintage. Je photographie avec des appareils grand format 8-10, et beaucoup de ces objectifs sont vraiment rares. Ce sont des objets irremplaçables. Je dois vraiment évaluer ce qui est important pour moi, et ne dépenser que pour ce dont j'ai besoin. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'avais pas prévu de faire des photos d'Altadena au départ, mais la communauté des photographes s'est mobilisée sur Instagram, sur Internet, et Arca Suisse, une entreprise française d'appareils photo, m'a offert un nouvel appareil 8-10 pour remplacer exactement celui que j'avais. Et d'autres photographes m'ont contacté et m'ont donné des boîtes de pellicules couleur 8-10 qui sont vraiment très chères. Et alors, j'ai décidé que j'allais consacrer tous les films que j'ai reçus à informer sur Altadena à travers l'objectif de quelqu'un qui a vécu cette expérience et qui doit faire son deuil aux côtés de ses voisins. Beaucoup de gens, de voisins dont je fais le portrait, fréquentaient les mêmes endroits que moi, les mêmes restaurants. Nous nous comprenons car nous avons tous vécu cette perte. Pour moi, c'est un peu comme une thérapie car je peux partager ces histoires avec des personnes de ma communauté et honorer cette communauté à travers cette série de photos.
Est-ce que vous avez prévu de faire une exposition avec vos photos ?
J'espère en faire un livre ou une exposition plus importante. Tout a commencé très modestement. Il s'agissait simplement de photos de mon terrain, de nos voitures, des jouets de mes enfants, de choses dont je voulais me souvenir, des choses très personnelles. Parce que je savais qu'une fois le terrain déblayé, elle disparaîtrait à jamais et donc... Il y avait donc quelque chose dans le fait d'essayer de conserver nos souvenirs et nos affaires, même si elles étaient brûlées. C'était quelque chose que je ressentais comme un besoin personnel. À partir de là, j'ai commencé à contacter mes voisins pour leur demander s'ils accepteraient de poser pour un portrait. Puis j'ai commencé à aller voir les voisins plus loin dans la rue et au fil du temps, cela s'est transformé en un projet plus important. J'ai commencé à prendre davantage de photos de paysages, de voitures brûlées, d'objets abandonnés. Et il s'avère que des inconnus et des amis avaient contacté Arca Suisse en leur disant « Vous devez l'aider à se procurer un autre appareil photo. Vous devez lui accorder une remise. Vous devez lui permettre de se remettre au travail dès que possible. » Cela m'a vraiment remonté le moral. Non seulement cette entreprise est intervenue, mais des gens que je ne connaissais même pas sur Internet se sont mobilisés pour moi. C'était donc une raison supplémentaire pour moi de documenter cela. Quelque chose de très personnel et qui compte beaucoup. Et c'est une histoire vraie. Le film couleur pour les formats 8-10 coûte 329 dollars pour 10 feuilles. Cela revient donc à 32 dollars par cliché. On m'a donné environ 10 boîtes. Cela représente une quantité énorme de pellicules à utiliser. Je ne voulais pas les gaspiller pour des reportages ou pour faire des photos dans la rue. Je voulais qu'il y ait une finalité.
Même si les artistes tentent de préserver ce qu'ils peuvent, notamment en transformant ce drame en œuvre d'art, les pertes culturelles sont immenses, tant à Altadena qu'à Pacific Palisades. À Altadena, par exemple, une carte géante a été plantée sur un boulevard pour illustrer l'incendie. On prend alors toute la mesure du drame. La quasi-totalité de la ville a été entièrement détruite.
Los Angeles, la culture résiste au feu, un reportage de Valérie Cantier avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous sommes en ligne avec Elsa Devienne, historienne des États-Unis, spécialiste notamment d'histoire environnementale. Los Angeles est connue pour être une zone d'activité sismique et on redoute l'arrivée du Big One, cet énorme tremblement de terre qui pourrait secouer la Californie. Mais l'autre risque majeur auquel la ville est confrontée, c'est le risque d'incendie. Il se renforce au fil des années.
Oui, il se renforce en lien avec le changement climatique parce qu'on a d'abord une sécheresse, des périodes de sécheresse plus fréquentes qui sont suivies par des périodes où soudain on va avoir énormément de pluie. On va avoir donc ces extrêmes en fait, que ce soit donc pour la pluviométrie, mais aussi pour les vents, etc. Ces extrêmes-là créent des conditions parfaites pour des événements comme des méga-feux tels qu'on a vu en janvier.
Le principal facteur, c'est le dérèglement climatique.
C'est un des facteurs. De toute manière, c'était une zone, notamment à Malibu, hein, ça a toujours été le cas depuis, même avant la période de la colonisation espagnole et américaine. C'était déjà un endroit dont on savait qu'il avait naturellement, et c'est un écosystème du feu, comme on dit. Altadena aussi, c'est un lieu où il y a une végétation très dense, très sèche, qui a la capacité de s'embraser, en fait, de manière cyclique, en fait, presque. Donc, il y a toujours eu des feux, mais ces incendies sont plus fréquents aujourd'hui en lien avec le changement climatique, mais aussi en lien à l'urbanisation qui s'est avancée dans des zones proches de grandes forêts, proches de ces espaces qui peuvent s'embraser facilement, en fait. Donc, c'est les deux, en fait. C'est le changement climatique et cette urbanisation dans des espaces où vraiment on ne devrait pas construire, en fait.
Et alors justement, la nouveauté, c'est qu'on voit des feux qui se propagent en milieu urbain. C'est à cause justement de la construction. C'est pour quelle raison exactement ?
C'est assez complexe, mais effectivement, on est donc dans des endroits. Alors les gens s'installent à Altadena, les gens s'installent à Pacific Palisades parce que ce sont des endroits paradisiaques. Hein. C'est magnifique. On a la vue sur les montagnes. On a cette végétation très dense, comme je disais, si on a des palmiers qui sont pas du tout adaptés et qui ont été importés. Et en fait, donc avec des canyons assez dramatiques, etc., c'est un contexte effectivement où quand on a des vents très forts, les vents peuvent s'engouffrer dans ces canyons. Voilà, ça peut créer ce contexte d'embrasement. Et par ailleurs, il y a peut-être aussi des mesures de sécurité qui n'ont pas été prises, par exemple, notamment il y a cette idée qu'il faut laisser de la place entre les maisons, qu'il faut laisser une place autour de la maison où ça doit être seulement pierre, pas de végétation qui pourrait s'embraser. Or, juste avant les incendies, en janvier, il y avait eu énormément de pluie, et donc il y avait eu énormément de végétation prête à s'embraser. En fait, c'était très luxuriant, en fait, à cette période-là, et peut-être il y a eu un manque de vigilance à ce niveau-là aussi.
Vous nous parliez il y a un instant d'Altadena. Vous avez écrit un livre sur les plages de Los Angeles. Vous connaissez vraiment très bien cette ville. Est-ce que vous pouvez nous dire sa spécificité ? Parce que c'est une mégalopole qui compte 3,9 millions d'habitants, répartis sur un peu moins de 1300 km². Donc il n'y a pas un, mais des paysages. Est-ce que vous pouvez un peu nous les décrire pour qu'on se rende compte véritablement ?
Alors Altadena, c'est pas une ville, mais c'est un quartier de Los Angeles qui se trouve donc au nord-est, au pied des montagnes de San Gabriel, mais le quartier lui-même est très plat. Finalement, c'est un quartier assez typique, suburbain, on va dire, de Los Angeles, avec des bungalows, donc des maisons à un étage, assez typiques, en bois, des grandes avenues avec des palmiers. Il faut essayer de s'imaginer un quartier assez peu dense, où domine la maison individuelle. La particularité d'Altadena, c'est donc c'est pas une ville, voilà, elle a pas de conseil municipal, elle a pas de maire. C'est une zone donc qui appartient au comté de Los Angeles, mais qui a une identité très forte en lien à la fois à cette idée que beaucoup d'artistes y ont trouvé un lieu de vie et ont vraiment créé une communauté très soudée. Et en même temps aussi parce qu'il y a eu ce noyau de gens noirs qui était installé avant les années 60, qui s'est agrandi très très vite. Il y a eu un changement démographique très rapide. C'était une ville qui, avant les années 60, était quasiment intégralement blanche et qui s'est très vite intégrée racialement après les mouvements des droits civiques. Et c'était une ville, 50% blanche, je crois, au dernier recensement, ou peut-être moins que ça. Donc très intégrée, très, très multiculturelle, très cosmopolite, très intellectuelle aussi. Donc une identité très forte aussi.
Pacific Palisades, c'est un quartier très différent, mais les incendies ont été ravageurs là aussi.
Voilà, c'est un quartier différent au sens où c'est beaucoup plus huppé, effectivement. Des maisons individuelles, peut-être plus cossues, puis qui ont vu sur la mer, surtout. C'est ça qui est à Pacific Palisades, ce qui est incroyable, c'est qu'on est vraiment, pour le coup, là, avec l'air marin qui arrive, il fait moins chaud, c'est plus agréable, l'air y est beaucoup plus respirable, moins pollué, et on est proche, donc, des plages, de Malibu, etc. Mais finalement aussi un quartier suburbain assez typique de Los Angeles, avec beaucoup plus de blancs, là, pour le coup, beaucoup plus riches, et beaucoup de gens du cinéma, comme on l'a dit dans le reportage.
Une question de Valérie Cantier.
Oui, alors justement, pour rebondir là-dessus, on m'a fait part à plusieurs reprises lors du reportage d'une polémique, une polémique politique qui est née à la suite des feux, puisque il paraîtrait que les secours auraient été beaucoup plus rapides sur Pacific Palisades et beaucoup moins sur Altadena. Et surtout aussi, les travaux à la suite des incendies auraient été également beaucoup plus promptes du côté de Pacific Palisades et donc du quartier riche par rapport à la ville de classe moyenne, on va dire.
On peut effectivement imaginer que... Enfin, vous imaginez si vous avez Tom Hanks d'un côté, des gens qui ont quand même le bras très long, qui connaissent des gens très importants. On peut imaginer effectivement que ça a dû jouer dans la manière dont le déblaiement, etc. s'est organisé. On peut aussi imaginer que parce qu'il y a plus d'argent, peut-être aussi certains ont utilisé leurs moyens privés pour procéder à ces déblaiements, etc. Après, pour ce qui est des pompiers, de l'arrivée des pompiers, sans doute, peut-être, ça a joué, mais il y a aussi des éléments qui sont liés au fait que comment on arrive dans un endroit, est-ce qu'il est accessible ou pas, ça, je ne sais pas. A priori, Pacific Palisades est très difficile d'accès, parce que, justement, il est entouré entouré de montagnes, etc. Donc, il y a peu de voies d'accès. Donc, je ne saurais pas beaucoup plus dire de choses sur cette controverse, mais ça me surprend peu, on va dire.
Alors, il faut maintenant reconstruire, la question étant de reconstruire quoi et comment. Avant de venir à ça, à vos yeux, que faudrait-il absolument essayer de préserver pour que Los Angeles ne perde pas son âme ?
Ce qu'il faudrait préserver, c'est ce qu'on dit en anglais, l'affordability. C'est-à-dire que Altadena reste abordable pour des foyers de classe moyenne. Ça, c'est vraiment clé. Parce que, bon, Pacific Palisades, c'est une chose. Hein, c'est vraiment intéressant qu'il y ait finalement ces deux exemples. En fait, c'est ces deux quartiers les plus touchés. Parce qu'il y en a un qui restait, voilà, une sorte de havre pour des classes moyennes qui n'avaient pas nécessairement beaucoup d'argent. Ou notamment aussi pour des familles qui étaient depuis des générations et qui avaient vu le prix de leur terrain, de leur maison augmenter, mais qui eux-mêmes n'étaient pas spécialement riches. Donc, c'est vraiment... Pour Altadena, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ça reste abordable, que des gens d'Altadena puissent revenir, puissent reconstruire et puissent reconstruire cette fameuse communauté qui était constituée notamment de beaucoup d'artistes et puis aussi de commerces indépendants. Alors, est-ce qu'on va pouvoir garder cet aspect assez particulier et de pas avoir que, si vous voulez, des chaînes qui se réinstallent parce qu'elles ont l'argent pour acheter ces terrains? Donc ça, c'est pour Altadena, c'est ce qui est clé. Pour Pacific Palisades, il y a beaucoup d'argent, donc j'imagine que ça va être plus simple de reconstruire. Après, évidemment, ça ne ressemblera jamais à ce que c'était avant. C'était, voilà, le résultat de couches d'épaisseur architecturale, les unes appelées les autres depuis 100 ans, voire même plus, 150 ans. Donc ça reviendra jamais à ce que c'était avant.
Valérie.
Oui, simplement pour rebondir aussi là-dessus, quand on se promène dans Altadena, il y a de nombreux panneaux. Altadena n'est pas à vendre. Et ça, c'est important puisque des associations de quartiers se sont créées pour lutter justement contre l'arrivée de promoteurs. Après, la question, on l'a entendu dans le reportage, c'est est-ce que les personnes qui habitaient là veulent attendre 5 ans avant d'avoir une nouvelle maison à Altadena qu'ils adorent, ou bien est-ce qu'ils vont mieux pas partir ailleurs, surtout quand on a 70 ans, c'est le cas d'une personne qui habitait dans une maison architecturale très célèbre à Altadena. On lui a offert de l'argent et elle a accepté, elle est partie parce qu'elle a 70 ans.
Effectivement, c'est la question. On parle de 5-10 ans pour la reconstruction. En fait, on ne sait pas très bien, on donne cette fourchette. Donc voilà, actuellement, l'idée de rester à Altadena est un peu abstraite puisqu'il n'y a rien. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ces 5 ans? Déjà, il faut prendre la question. Est-ce qu'on reconstruit et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce qu'en attendant, il faut bien vivre. Et Altadena, il y a vraiment cette question, effectivement, de qui va racheter et est-ce que ça va être des grands promoteurs immobiliers ou est-ce qu'on va essayer de garder ça dans des pour des foyers individuels, des foyers de gens qui étaient historiquement à Altadena. Mais c'est complexe parce qu'en attendant, effectivement, il n'y a rien. Donc, les gens âgés, effectivement, sont tentés de partir parce qu'ils ne veulent pas passer le reste de leur vie à reconstruire. Et puis, pour ceux qui sont plus jeunes, entre guillemets, il faut continuer à vivre. Donc, c'est compliqué. Et en même temps, oui, il faut préserver cette identité. On le voit bien, en fait, dans le reportage. Il y a des gens à la fois qui sont déterminés à revenir, déterminés à reconstruire. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas le cœur à ça. Et on peut les comprendre.
À l'avenir, de nouveaux incendies sont à prévoir. Alors, pour éviter des dégâts aussi considérables, qu'est-ce qu'il faudrait repenser? Est-ce que c'est la façon de construire? Est-ce que c'est l'aménagement urbain?
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises. Il y a beaucoup d'idées qui sont lancées en ce moment. Déjà, il faudrait peut-être ne pas reconstruire partout. Laisser des zones entre les maisons, entre les quartiers, qui serviraient en quelque sorte de ruban protecteur, enfin de zone tampon, on va dire. Je parlais de cette idée qu'il faut régulièrement surveiller la végétation autour des maisons. Il faudrait qu'il y ait une sorte de des vérifications plus systématiques qui soient faites par les pompiers, etc., pour vérifier que cette végétation ne devienne pas trop dense, des systèmes d'alerte. Peut-être reconstruire différemment, reconstruire avec des matériaux différents, reconstruire en anticipant ce genre de méga-feu.
Pour ça, il faut revoir la réglementation. C'est des décisions qui se prennent à l'échelle de la ville, de l'État.
Alors oui, alors pour Altadena, qui donc n'a pas de conseil municipal ni de maire, ça va être c'est un jeu à trois niveaux entre l'État fédéral, l'État de Californie et le comté de Los Angeles. Donc c'est complexe. D'ailleurs, c'est assez complexe pour les habitants qui doivent gérer ces trois niveaux différents. Voilà, la chance que ces gens ont, c'est qu'à Pacific Palisades, voilà, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de pouvoir. Et Altadena, peut-être moins d'argent, mais il y a cette volonté assez féroce, assez belle de reconstruire cette identité très forte, ce nombre d'artistes qui sont prêts à réinventer et à réinsuffler cette identité dans le quartier. Donc ça, c'est une chance pour eux.
Mais la Californie est un État démocrate et on connaît l'hostilité de Donald Trump vis-à-vis en particulier du gouverneur Gavin Newsom. Ça ne va pas forcément faciliter les choses pour Los Angeles.
Non, pas du tout. D'ailleurs, on le mentionnait, je crois que c'était une femme qui le mentionnait à un moment donné. Trump représente vraiment un énorme obstacle de plusieurs manières en fait, pour les gens qui essaient de reconstruire à Los Angeles. D'abord, il y a la question des tarifs douaniers qui font que les matières premières vont avoir et les machines, les pièces, tout ce dont on a besoin pour construire une maison qui vient d'étranger vont être frappés par ces nouveaux tarifs douaniers. Ensuite, il y a les fameux raids de la police d'immigration qui effraient énormément les personnes latino, qu'elles soient avec papier ou sans papier hein, d'ailleurs, puisqu'on a bien vu que c'était assez hasardeux et discriminatoire, la manière dont ces raids de policiers sont menés, qui d'ailleurs viennent d'être réautorisés en Californie. Donc ces gens-là dont on a besoin, cette main-d'œuvre, elle va avoir tendance à ne pas vouloir aller se rendre sur les sites de construction, à vouloir rester chez elle. Or, on a besoin terriblement de cette main-d'œuvre. Et puis, Donald Trump, encore récemment, parlait de se débarrasser de l'agence fédérale qui est... se charge de s'occuper des populations après les catastrophes, notamment naturelles, la FEMA. Donc, dans ce contexte, effectivement, Los Angeles et ses zones incendiées sont vraiment mal servies. C'est-à-dire qu'elles font face à de vrais obstacles de la part de cet État fédéral qui, finalement, en plus, parce que c'est une zone démocrate et surtout Altadena très progressiste, enfin, la Pacific Palisades aussi, sont exactement ceux que Trump aborde, déteste hein, ces zones intégrées racialement, progressistes, donc il va effectivement pas du tout aller les aider.
Et puis il y a bien sûr cette échéance de 2028, puisque Los Angeles doit accueillir les Jeux Olympiques, donc échéance assez proche compte tenu de tout ce qu'on a entendu. Merci beaucoup Elsa Devienne, le grand reportage de cette semaine. À Los Angeles, la culture résiste au feu, était signé Valérie Cantier. Réalisation Annie Bro, à la technique Valentin Bobinet. Documentation Patricia Miura et Véronique Lefaler. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'appli Radio France.